Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue du grain à moudre d'été. Ce soir, la délinquance fait-elle son retour dans le débat politique ? C'est un sujet dont on a souvent beaucoup entendu parler à l'approche d'élections. Vous vous souvenez peut-être de l'agression de Paul Voise, ce retraité très largement traité après par quelques journaux et quelques chaînes de télévision juste avant le premier tour de la présidentielle. C'était en 2002. La délinquance semblait avoir disparu des discours politiques ces dernières années, lors des élections de 2017 par exemple, présidentielles et législatives. Mais voilà qu'elle est à nouveau évoquée ces derniers temps. Édouard Philippe, lors de sa déclaration de politique générale, c'était il y a 3 semaines. Anne Hidalgo, il y a 15 jours. La maire de Paris accusait alors l'État d'être responsable de la montée de l'indélinquance dans la capitale, avec eux aussi quelques élus locaux, élus d'opposition essentiellement, qui critiquent la politique de sécurité menée dans leur ville. Bref, des discours plutôt offensifs, à un peu moins d'un an maintenant des élections municipales, d'où cette question. La délinquance fait-elle son retour dans le débat politique ? Pour en parler, 3 invités. Christophe Soulez, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur de l'Observatoire national de la délinquance, maître de conférence à Sciences Po. Vous êtes aussi l'auteur, entre autres, de La criminalité en France, livre publié par la Documentation française. Jérôme Fourquet, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes directeur du département opinion de l'IFOP. Vous avez travaillé sur les nouvelles fractures de la société française, travail que l'on peut lire dans L'archipel français. C'est publié au Seuil. Et puis avec nous par téléphone, Laurent Mucchielli, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes sociologue, directeur de recherche au CNRS et vous dirigez l'Observatoire régional de la délinquance au sein de l'Université d'Aix-Marseille. Parmi les nombreux livres que vous avez écrits sur le sujet, votre dernier, Délinquance et criminalité à Marseille, fantasme et réalité, ouvrage publié par la Fondation Jean Jaurès. Pour commencer, pour poser les bases de cette discussion, de ce débat, je voudrais prendre quelques instants pour qu'on définisse ensemble ce qu'est la délinquance. Ça peut paraître évident, ça ne l'est pas forcément, Christophe Soulez. De quoi parle-t-on ? Est-ce qu'il s'agit des délits uniquement, des délits et des crimes également ?
C'est toute la question, c'est effectivement très difficile de conceptualiser ce terme, car la délinquance, effectivement, c'est un ensemble d'infractions qu'on considère enregistrées par la police et la gendarmerie. Donc lorsqu'on utilise ce terme-là, on est généralement sur une nomenclature, donc un système qui date des années 70 et qui a quasiment pas évolué depuis cette date, et qui porte sur les crimes et les délits, donc pas les contraventions, pour répondre à votre question, enregistrés par la police et la gendarmerie nationale. Voilà, c'est comme ça, en tout cas, qui est défini dans le débat public, en tout cas depuis un certain nombre d'années, effectivement, la délinquance et les propos qui peuvent être tenus sur sa supposée hausse ou baisse. Le problème, c'est que à travers l'usage de ce mot, on amalgame des infractions de nature et de gravité totalement différentes. On a amalgamé des homicides, des vols sans violence, même des infractions à la chasse ou à la pêche, voilà, sans qu'on puisse justement dire à un moment donné quel type à un moment donné d'infraction est en hausse ou est en baisse. Et c'est pour ça qu'on s'est battu pendant 10 ans pour ne plus utiliser ce terme de délinquance dans le débat public.
Bon, malheureusement, on l'utilise encore ce soir, mais vous faites bien de préciser les choses. Laurent Mucchielli, le spectre est très large, on vient de l'entendre avec ce que vient d'expliquer Christophe Soulez. Est-ce que ça veut dire aussi que ce mot peut être, et la réalité qu'il recouvre et qui est très large, encore une fois, peut être utilisé, voire instrumentalisé par plusieurs personnes, en tout cas les gens qui sont concernés de près ou de loin par le sujet ?
Oui, alors je crois qu'il faut essayer de bien distinguer 3 choses tout à fait différentes. Votre première question qui était quelle est la définition de la délinquance, ça c'est une question en réalité qui est simple. La délinquance, c'est tous les comportements qui sont prohibés par la loi. C'est le droit qui définit ce qui est délinquant, et quand le droit change, du coup, la délinquance change aussi. Mais c'est très simple, la définition, c'est le droit, il n'y en a absolument pas d'autre. Après, il y a une deuxième question, c'est est-ce qu'on peut mesurer l'ensemble de ces comportements ? La réponse est non. Très clairement non, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas du tout, qu'aucun mode d'enquête n'interroge. Par exemple, la délinquance en col blanc, la délinquance des élites, n'est absolument pas mesurée par aucun système d'enquête. Puis après, il y a encore une troisième chose qui est la représentation sociale, politique, les discours sur la délinquance qui inondent le débat public et qui, eux, à chaque fois, évidemment, se focalisent sur telle image, tel stéréotype en fonction des intérêts avoués ou cachés des discours politiques en question.
Ce que dit Laurent Mucchielli est intéressant, Christophe Soulez. Est-ce que les pouvoirs publics, au-delà de la criminalité en col blanc à laquelle il était fait référence, est-ce que les pouvoirs publics ont les outils nécessaires pour mesurer la délinquance et...
Non, on n'a pas effectivement tous les outils pour pouvoir mesurer les différents types d'infractions, les différents types de phénomènes criminels. Alors, on a un peu progressé quand même ces 15 dernières années, puisque aux côtés de l'outil policier, hein, de l'outil là encore lié à l'enregistrement des plaintes, on a développé des systèmes, je dirais, complémentaires, avec notamment, on y reviendra peut-être, l'enquête de victimation, cadre de vie et sécurité, oui, qui permet voilà d'avoir un certain nombre d'informations sur des infractions pour lesquelles les dépôts de plaintes sont très faibles. Hein, je pense notamment à tout ce qui est lié aux violences faites aux femmes. En revanche, effectivement, sur certains autres types d'infractions, on a des difficultés aujourd'hui à disposer d'informations fiables. Hein. On en parlait avant avec votre autre invité, mais par exemple, voilà, le nombre d'homicides commis par arme à feu, je rejoins là-dessus ce qu'a dit Laurent Mucchielli, le nombre d'infractions qui peuvent être commises par les personnes morales, par exemple, hein, en matière économique et financière, mais on pourrait égrener comme ça un certain nombre d'infractions pour lesquelles voilà, on manque aujourd'hui des systèmes d'information, des bases de données, des outils qui nous permettraient parfois d'apporter des réponses un peu plus précises que ça dans le débat public.
Encore une précision avant de donner la parole à Jérôme Fourquet. Comment sont établis les chiffres de la délinquance? De quoi parle-t-on précisément? Vous avez évoqué les plaintes et puis aussi cette enquête de victimation intitulée Conditions de vie et sécurité CVS.
Il y a ce qu'on appelle les statistiques administratives, hein, c'est-à-dire les procédures qui sont rédigées par les policiers et les gendarmes, soit de leur propre initiative quand il s'agit d'infractions sans victime, du type trafic de stupéfiants, usage ou revente, soit qui sont rédigées lorsqu'une victime vient déposer plainte pour une infraction. Ces données-là, elles sont très fragiles parce qu'elles vont dépendre d'une part de la propension, bien entendu, des victimes à aller déclarer les faits. Mmh. Et on sait qu'une majorité de faits ne font pas l'objet d'une plainte pour des raisons qui sont très variées. D'autre part, des pratiques d'enregistrement des policiers et des gendarmes. Est-ce qu'ils vont prendre la plainte ou pas? On sait aujourd'hui que voilà, il y a certaines plaintes qui sont pas prises par les policiers ou les gendarmes.
Pourquoi?
Faute de temps, quand il y a eu par exemple la politique liée, ce qu'on appelait la politique du chiffre.
Du chiffre, hein, il y avait des objectifs.
Il y avait des objectifs. Le policier et le gendarme, il avait tout intérêt à minimiser à un moment donné les infractions.
Mais ça, c'est plus le cas. Hein. Alors, il n'y a plus de politique du chiffre officiellement.
Il n'y a plus de politique du chiffre en règle générale, mais dans un commissariat, on sait très bien sur une institution qui comprend entre policiers et gendarmes 230 ou 240 000 personnes, il y a des pratiques qui sont très différentes. Pratiques territoriales, pratiques entre les deux forces, pratiques selon les départements. Vous avez c'est un système qui peut être influencé aussi par la modification des systèmes d'information. On l'avait connu en 2012 au niveau des gendarmes en 2014 et 2015. Dès l'instant où vous modifiez là encore les systèmes d'information, ça modifie la manière dont sont enregistrés
les systèmes d'exploitation.
Exactement, ce qu'on appelle les logiciels de rédaction des procédures dans la police et la gendarmerie. Donc à côté de ce système-là, effectivement, depuis 2007 en France, on a ce qu'on appelle l'enquête de victimation, donc qui est réalisée par l'INSEE, et là qui permet d'interroger chaque année un peu plus de 16 000 ménages et 16 000 personnes pour savoir effectivement si elles ont été victimes de telle ou telle infraction, que cette infraction ait fait l'objet d'une plainte ou pas. Et donc ça nous permet, encore une fois, c'est pas un système qui est meilleur nécessairement que le précédent, mais c'est un système qui repose sur un autre mode de déclaration.
On voit bien, Jérôme Fourquet, qu'il est très difficile de mesurer avec précision les actes délictueux en France. Comment faites-vous, vous qui analysez aussi ces chiffres, pour en tirer quelque chose?
Alors nous, en institut de sondage, on serait plutôt sur des outils qui sont assez proches, même s'ils n'ont pas la même ampleur, que celle de l'enquête de
victimation.
Hein, c'est-à-dire qu'on va interroger des individus, alors soit avec des questionnaires très fouillés, soit avec des questionnaires plus basiques. On peut avoir différentes approches, c'est-à-dire soit on recueille le vécu des individus, vous est-il arrivé d'être confronté à telle ou telle situation, soit on mesure les perceptions sur avez-vous le sentiment d'être plus ou moins en sécurité. Donc tout ça est très subjectif, mais donne aussi au long cours, quand on les suit, un certain nombre d'indications. Autre façon de voir les choses, et c'est peut-être pour la suite de notre échange et de notre discussion, on peut mesurer aussi où se situe dans l'état d'esprit des Français la préoccupation de la sécurité versus d'autres sujet de préoccupation de politique publique, c'est-à-dire parmi les 7 ou 8 priorités suivantes, l'emploi, la fiscalité, l'environnement, la sécurité.
Et on en est où aujourd'hui?
On est sur des niveaux intermédiaires, donc on n'a pas encore mesuré en termes d'opinion la remontée peut-être naissante le retour de cette problématique dans le débat public.
En tout cas, ce que vous avez constaté au cours des dernières années, c'est que cette préoccupation a descendu,
oui,
en tout cas.
Oui, avait a changé de place, hein, dans les classements. Ouais. Alors, de la même manière qu'il y a des biais de mesure sur l'outil statistique policier, c'est-à-dire est-ce qu'on enregistre bien la plainte, on voit bien aussi qu'on peut avoir des biais sur les questions de perception, dans la mesure où si les acteurs politiques et médiatiques traitent moins ces sujets, réalité constante, il peut très bien se produire que les personnes qu'on va sonder vont avoir tendance à moins spontanément évoquer ces problématiques.
Alors on va parler de chiffres quand même pendant cette émission et cette discussion. Laurent Mucchielli, d'où viennent ces chiffres? On a commencé à apporter quelques éléments de réponse. Et est-ce que ce sont aussi des données nationales fiables et des données locales fiables aussi? Parce qu'on a parlé de quelques villes.
Alors la situation est tout à fait différente. Au plan national, on a effectivement la possibilité, sur certains types de délinquance, hein, malheureusement donc pas sur tous, de pouvoir comparer ce qui est enregistré par les policiers et les gendarmes d'une part, et ce que nous disent les citoyens lorsqu'on les interviewe dans des sondages plus ou moins importants. Donc ça c'est très intéressant et ça donne un premier résultat majeur qui est que dans la plupart sur la plupart des choses qu'on mesure, qui sont en gros les agressions physiques ou sexuelles, les vols, les cambriolages, bref, ce qui nous touche directement dans notre personne ou dans nos biens. En gros, ce qui est intéressant de constater ici, c'est que les procédures des policiers et des gendarmes ont des fluctuations, mais globalement augmentent, par exemple chez les mineurs, tandis que dans les enquêtes en population générale, elles sont globalement stables. Donc ça, c'est très important. Ça montre bien encore le décalage qu'il y a entre le traitement institutionnel d'une partie des faits, qui dépend de tout un tas de choses, et puis la réalité, ce qui se passe tous les jours dans la vie quotidienne. De la même manière que si on parle des opinions, des sentiments, etc., il faut bien distinguer ce qui est de l'ordre des représentations, des préoccupations, comme l'évoquait Jérôme Fourquet à l'instant, une question du style, est-ce que vous pensez que c'est une question très importante par rapport au chômage ou à l'environnement? Ça donne une tendance des opinions dans le débat public qui est totalement dépersonnalisée, c'est une opinion extrêmement générale, ça n'implique pas du tout que les individus se sentent personnellement impliqués, puisque dans le même temps, quand nous faisons les enquêtes en population générale, on demande aux gens ce dont ils ont été réellement victimes, on demande aussi leurs préoccupations, et on demande aussi si eux, dans leur vie quotidienne, ils ont peur chez eux, peur de sortir le soir de leur quartier, et là on s'aperçoit aussi du décalage, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, en gros, je l'exagère un peu pour montrer l'idée, vous pouvez avoir 80% de gens qui vous disent oui, c'est une question très importante en France en général, et dans le même temps, vous avez également 80% des gens qui vous disent, mais moi j'ai pas du tout peur dans ma vie quotidienne, ça tout va bien, vous voyez?
Oui, donc c'est un sentiment d'insécurité plus que de l'insécurité réel à proprement parler, Christophe Soulet, c'est oui, ça que vous voyez aussi?
Avec un aspect effectivement qui est très subjectif, parce que le sentiment d'insécurité va dépendre aussi voilà de la manière dont on appréhende le risque, de sa fragilité éventuellement économique et sociale, va dépendre du quartier où on habite. Là encore, c'est bon, voilà, on peut avoir une statistique sur le sentiment d'insécurité générale en France, il va pas du tout le même en fonction du quartier où on habite, en fonction de l'âge également. Enfin, nous, ce qu'on a mis en avant, c'est effectivement que les personnes qui se sentent le plus en insécurité à leur domicile ou dans leur quartier, c'est les personnes âgées. Et pourtant, c'est les personnes qui, dans l'enquête de victimation, se déclarent le moins victimes. Donc c'est vraiment la perception, à un moment donné, que les gens vont avoir du risque. Et ce qui est très important, ce qui a été dit par Jérôme Fourquet tout à l'heure, c'est effectivement que ce sentiment d'insécurité va être aussi alimenté par la manière dont les responsables politiques, dont les médias, à un moment donné aussi, mettent à la une, cette problématique. Ce sentiment ne sera pas le même si vous faites l'enquête au moment des émeutes de novembre 2005, si vous la faites un an après.
Évidemment, Jérôme Fourquet, sur la manière dont les médias pèsent sur ce sujet et sur ce débat, quel est leur rôle précisément?
Ils influent sur la perception parce que les citoyens que on va interroger ne sont pas experts en la matière. Dieu merci, beaucoup d'entre eux ne sont pas confrontés personnellement ou en tout cas pas fréquemment à ce type de contexte ou de situation, et donc du coup pour se faire une opinion sur le degré de dangerosité ou d'insécurité qui régnerait dans le pays, ils s'en remettent à ce qu'ils entendent, perçoivent dans les médias. Après, attention à pas tordre non plus le bâton dans l'autre sens en disant, on se rappelle du fameux débat en 2001-2002 sur le sentiment d'insécurité et la sécurité objective. Il y a souvent quand même un certain nombre de corrélations qui peuvent exister, même si, comme ça a été rappelé, vous pouvez très bien vous sentir en insécurité sans jamais avoir été agressé. Mais donc, du coup, ce qu'on appelle dans le jargon le cadrage médiatique ou politique a une influence sur la perception que les Français vont avoir.
Laurent Mucchielli.
Oui, alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, mais en tout cas, faut le préciser. Ce que les recherches montrent, c'est qu'il n'y a aucune corrélation entre, c'est ça l'idée importante, il n'y a aucune corrélation entre l'intensité d'une question, une question de délinquance précise ou générale d'ailleurs, dans le débat public, dans le débat médiatico-politique, et par ailleurs son intensité réelle dans la société. Mmh. Dans la société, les phénomènes sont globalement stables et il y a un réservoir de faits quotidiens criminels qu'on peut trouver tous les jours, absolument tous les jours. Pourquoi est-ce que à certaines périodes très précises et qu'on a étudiées, qu'on peut chiffrer, etc., tout d'un coup, pour dire simple, ça monte à la une au fond du débat médiatico-politique national, et puis à d'autres moments, ça disparaît, alors que globalement dans la société, il y a toujours le même type de problème. Donc là, c'est très important de dire ça. Il y a des processus bien particuliers qui font que on se saisit à certains moments d'une question ou pas. Moi, je l'ai montré à plusieurs reprises de manière très très précise. Je l'avais montré par exemple sur la question des viols collectifs. En 2001-2002, surgit en France le débat, vous vous en souvenez certainement, ouais, sur les tournantes, qui est dans le contexte d'ailleurs d'une élection dont vous avez parlé tout à l'heure.
L'élection présidentielle.
Voilà. Tout d'un coup, hop, on braque le projecteur là-dessus. Est-ce qu'il y a tout d'un coup plus de viols collectifs, pour autant qu'on puisse le savoir, dans la société réelle? La réponse est non. Et vous aurez remarqué aussi que, par la suite, et depuis 2003, on ne parle plus du tout de cette question-là. Or, il y a toujours le même nombre de viols collectifs. Mmh. De la même manière, je l'ai montré récemment dans le petit essai que vous avez cité tout à l'heure, sur la question des règlements de compte entre délinquants à Marseille. C'est la même chose. On a eu, vous en souvenez, la chronique, les médias au niveau national faisaient la comptabilité, le 15e, oui, le 16e, le 17e de l'année, les fameux règlements de compte à la calache, etc. Il y en a aujourd'hui tout à fait encore le même chiffre qu'il y a 2 ou 3 ans, or on n'en parle plus. Donc ce sont vraiment des processus très particuliers qui sont à la fois politiques, parce que comme vous l'avez dit très justement dès le début de votre émission, c'est un thème évidemment un support majeur de certaines rhétoriques politiques, sans doute une des plus vieilles rhétoriques politiques du monde, hein, votez pour moi et je rétablirai l'ordre et la sécurité.
La peur.
Et puis par ailleurs, il y a des choix rédactionnels au niveau des grands médias qui font que dans le réservoir possible des faits, on dit aujourd'hui, c'est ça la priorité, c'est ça qu'on va monter vers la lune.
Jérôme Fourquet.
Oui, alors je voudrais juste rebondir sur le traitement médiatique, l'aspect politique, je pense qu'il apparaît assez clair aux auditeurs. Le traitement médiatique, il peut aussi procéder d'un phénomène parfois un peu moutonnier ou un peu suiviste de la profession journalistique.
Ça tient aussi à l'actualité. On sait que quand il n'y a pas beaucoup d'actualité, les journalistes ont tendance à aller vers ce genre de...
Oui, tout à fait. Mais Laurent Mukili parlait des tournantes. Il y a une autre époque, un moment, on a beaucoup focalisé, vous savez, sur les attaques par pitbull. Avec des chiens, quelque chose qui apparaissait relativement nouveau, qui avait marqué un peu les esprits. Et ensuite, à chaque fois qu'il y avait un fait divers de ce type, il était systématiquement... il bénéficiait d'un traitement dont il n'aurait peut-être pas bénéficié dans un autre contexte. Donc il y a ça aussi. Et effectivement, comme le disait Laurent Mukili, après on peut avoir le sentiment que ces phénomènes disparaissent parce qu'ils ne sont plus... Ils ne sont plus montrés, donc alors même qu'ils continuent d'exister.
Une question, après tout ce qui vient d'être dit, Christophe Soulez, est-ce que la société, aujourd'hui, à travers donc ce prisme médiatique, politico-médiatique, est plus violente, peut apparaître plus violente que celle qu'on a connue il y a 15, 20, 25 ans?
La question est très difficile à répondre, puisque ça dépend effectivement d'une part des outils de mesure et de la manière dont, au cours de ces 15 dernières années, éventuellement, un certain nombre d'infractions, justement, ont pu être enregistrés.
Laurent Mukili parlait d'intensité stable, en fait. C'est ça le cœur de la question. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Là, encore une fois, tout dépend du type d'infraction. Si vous m'interrogez sur, par exemple, les débits frauduleux sur Internet, je vais vous dire qu'en 5 ans, dans les enquêtes de victimation, on est passé de 500 000 ménages victimes à 1,3 million. On ne peut pas dire que ça soit stable. Si on évoque les vols à main armée enregistrés par la police et la gendarmerie, là, en moins de 10 ans, on est passé de 6 000, effectivement, à moins de 2 000 aujourd'hui. De même sur les homicides, on est effectivement sur un nombre d'homicides très faible aujourd'hui par rapport à ce qu'on a pu connaître il y a maintenant une quinzaine d'années, même si il faut se méfier aussi dans la manière dont les homicides sont enregistrés par la police et la gendarmerie. Donc on est effectivement sur des phénomènes et des types d'infractions qui vont évoluer cycliquement de façon effectivement parfois inverse, avec un niveau quand même élevé de victimes, ça veut pas dire là aussi quand on est sur un niveau constant, si on prend les cambriolages par exemple, on peut être sur un niveau constant à 10 ans à 500 000 ménages victimes de cambriolages par an, on reste quand même sur un nombre assez élevé ou les violents. Et il y a un autre phénomène aussi qui faut avoir en tête aussi, c'est quand on parle à un moment donné de cette délinquance en règle générale, dans le débat public, on la voit uniquement sur voilà ce qui peut se passer sur la voie publique, en gros les cambriolages, les vols avec violence, etc. Il y a une grosse partie de cette délinquance qui était assez peu connue il y a une dizaine d'années, c'est toute cette violence, toute la violence, qu'elle soit la violence physique, la violence verbale, la violence psychologique, commise au sein de la sphère familiale, qu'on a eu quand même, et dans l'enquête de victimation, on voit bien que 50% des violences physiques déclarées par les personnes victimes ont lieu au sein de la sphère familiale. Et ça, ça rejoint également la question des violences sexuelles, avec cette libération de la parole.
Oui,
avec
le fait qu'aujourd'hui, on le voit dans la dernière étude, qui date de 2017.
Exactement, il y a un certain nombre de personnes qui ne se sentaient pas nécessairement victimes, qui se sentent aujourd'hui victimes et qui vont aller déposer plainte. Ces types d'infractions existaient il y a 10 ans, sauf que personne n'en parlait et qu'elles n'étaient pas reportées ni dans les enquêtes, ni à la police, à la gendarmerie. Hein.
On voit que c'est un sujet complexe, mouvant aussi quand on parle de délinquance. Essayons de nous attacher maintenant à étudier quelques chiffres. Est-ce qu'on peut parler, Laurent Mukeli, de hausse de la délinquance au niveau national? Je reprends quelques chiffres du ministère de l'Intérieur qui datent de cette année, premier trimestre de cette année, et qui constatent une hausse sur un an, plus 12% pour les règlement de compte et les homicides, plus 7% pour les coups et blessures volontaires. À la lumière, à l'aune de ces chiffres, est-ce qu'on peut parler donc de hausse de la délinquance au niveau national?
Alors on va revenir sur la petite précaution qu'on avait eue en tout début d'émission, mais qu'il faut pas perdre en cours d'émission, c'est très important, à savoir employer les bons mots. Donc la délinquance est un mot qui ne veut pas dire grand-chose, et en tout cas qu'on ne saurait mesurer, puisque c'est un amalgame entre des centaines de comportements de types différents. De la même manière, vous avez posé tout à l'heure à Christophe Soled une question sur la violence augmente-t-elle, et on voit bien que dans le débat et la réponse ensuite, on est parti sur autre chose. Alors, faut s'entendre sur les mots. Violence, c'est l'atteinte à l'intégrité de la personne. C'est pas le vol, c'est pas la carte bleue. Il faut qu'on soit précis. Alors, si vous me demandez très précisément, est-ce qu'il y a une augmentation de des violences au sens des atteintes à la personne, de la menace à l'intégrité de la personne, la réponse est non. Très clairement, la réponse est non, et je vais même plus loin, elle est même tendanciellement, ce sont même des phénomènes qui reculent dans la société, alors même que dans le même temps, les peurs à ce sujet sont toujours aussi présentes, voire augmentent. Donc, ça c'est quelque chose qui est très important, j'ai consacré un livre entier il y a quelques années pour essayer d'expliquer cette différence très importante. Nous sommes dans une société globalement qui sans doute à l'échelle historique n'a jamais été aussi peu violente, en réalité, aussi peu violente, au sens encore une fois de l'atteinte à l'intégrité des personnes, et pourtant le sentiment peut être le contraire spontanément. Nous n'avons plus en fait la même définition de ce que veut dire la violence qu'avaient à notre âge nos grands-parents ou nos arrière-grands-parents, qui vivaient dans une autre société, qui ont connu de très grandes violences, qui ont totalement disparu aujourd'hui, les guerres, etc. C'est très important, voilà, ce décalage entre la réalité et la perception. Après, si on parle de l'ensemble des comportements délinquants, il y en a bien sûr toute une série d'entre eux qui évoluent avec la société, par exemple avec avec les évolutions technologiques. À partir du moment, par exemple, où Internet est arrivé dans nos sociétés, est arrivé dans la société de consommation, est devenu un moyen de paiement, etc., il est évident que la délinquance s'est adaptée. La délinquance, c'est un phénomène à part, hein, ça fait totalement partie de la vie sociale, ça vit à son rythme, mais ça s'adapte à cette technologie. Voilà. Mais cette idée, encore une fois, j'y insiste, c'est très important, hausse de, explosion de, etc., c'est proprement ces rhétoriques politiques qui nous ont imposé au fond au fil des ans ce langage et qui viennent en permanence remettre sur le four au fond le vieux plat pour le réchauffer. Il faut vraiment qu'on fasse tous attention à pas tomber dans ce panneau, bien sûr.
Avant d'avancer, je voudrais avoir votre réaction, Jérôme Fourquet, Christophe Soulez, à ce que vient de dire Laurent Mukeli. La société actuelle n'a jamais été aussi peu violente. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, hein, Christophe Soulez?
Moi, pas nécessairement, parce que je pense qu'on ne peut pas répondre de façon générale à cette question. Donc, là encore aussi, parce que la perception de la violence, effectivement, a aussi évolué, parce que nos concitoyens sont aussi beaucoup plus en attente par rapport au pouvoir public, et effectivement, alors que certains phénomènes étaient, mieux acceptés un certain nombre d'années, ils le sont moins aujourd'hui, et qu'encore une fois, hormis la violence homicide, et encore, je prends des précautions, les autres types de violences, hein, voilà, les violences sur la voie publique, les violences au sein de la sphère familiale, et là, il y a encore une dizaine ou une quinzaine d'années, on les mesurait très mal. Donc, si vous me demandez par rapport à 10 ans, moi, en tout cas, j'ai les outils de mesure pour à peu près, à travers l'enquête, pour savoir si effectivement, par rapport à 10 ans, il y a moins de violence. Oui, on a aujourd'hui beaucoup moins de violence physique, ce qu'on va appeler hors ménage, hein, sur la voie publique, qu'il y a une dizaine d'années. On a beaucoup moins de vols avec violence, parce que même si c'est des vols crapuleux, voilà, c'est quand même des vols violents qu'il y a effectivement une dizaine d'années. Voilà, après on demeure à un niveau de victime, voilà, qu'on peut considérer acceptable, pas acceptable. Voilà, en dehors de cette période d'une dizaine d'années où on a à peu près un outil de mesure qui est relativement stable. Voilà, et encore une fois, je mets la violence homicidaire en dehors. Il est toujours difficile de répondre à cette question. Et je mets bien entendu les guerres, les conflits, enfin tout ça de côté. Je parle uniquement des phénomènes de délinquance.
Jérôme Fourquet.
Non, mais moi, je souscris assez sur ces éléments statistiques. Après, il faut qu'on ait aussi en tête l'effet cumulatif, c'est-à-dire qu'on peut avoir le même nombre de victimes tous les ans, mais au fur et à mesure, tout ça s'accumule, et vous voyez dans l'entourage, on peut dire, ben voilà, des gens qui ont été victimes, ils le gardent, ce sentiment et cette crainte assez longtemps en eux. Donc on peut dire, ça se maintient ou ça baisse plutôt, peut-être, faut regarder, mais on est quand même sur des niveaux qui sont relativement élevés, et donc le cumulatif peut expliquer aussi le fait qu'il y ait cette acuité qui reste importante, avec aussi ce que il a été précisé tout à l'heure, un certain nombre, le seuil de tolérance a peut-être été abaissé aussi au fil du temps. C'est pas exactement l'objet aujourd'hui de ce débat, mais par exemple, on va peut-être parler tout à l'heure des gilets jaunes. Quand entendait la violence des gilets jaunes et qu'on nous expliquait que en mai 68 c'était beaucoup plus paisible, bon bah vous regardez les photos, les images des affrontements, ou dans les années 70 dans les grands conflits avec la sidérurgie par exemple, voyez que la violence syndicale ou politique ou sociale prenait des formes très très fortes, ou les manifestations paysannes. Et donc là aussi le regard et le degré d'acceptabilité sociale peuvent évoluer. Donc tout ça est mouvant.
Avec un élément supplémentaire aussi, justement, par rapport à cette question de la perception. On parlait du rôle, je dirais, des médias classiques tout à l'heure, mais faut voir quand même que maintenant, depuis quelques années, il y a aussi une plus forte visibilité, un plus fort affichage de cette délinquance et de cette violence dans la société à travers l'utilisation des réseaux sociaux, à travers l'accès à des images qu'on n'avait pas il y a encore 5 ou 6 ans. Donc, qui peuvent aussi renforcer à un moment donné, encore une fois, contribuer à renforcer le sentiment d'insécurité, et qui donnent aussi l'impression, voilà, que cette violence est beaucoup plus présente. Et ça, le rôle à un moment donné des réseaux sociaux, l'accès à l'information, l'accès à l'image, et on le voit bien, on l'a bien vu aussi au moment des gilets jaunes, est aussi un élément qui va contribuer à un moment donné à se forger une perception du risque et éventuellement donc de cet ensemble de phénomènes criminels.
France Culture, du grain à moudre, Antoine Genton.
La délinquance fait-elle son retour dans le débat politique? C'est la question du grain à moudre d'été ce soir. 3 invités pour en débattre. Vous venez de l'entendre, Christophe Soulez, directeur de l'Observatoire National de la Délinquance. Jérôme Fourquet, directeur du département Opinion de l'IFOP. Et puis par téléphone avec nous, le sociologue Laurent Mucchielli. Vous parliez des gilets jaunes, eh bien venons-y. Quelques chiffres d'abord à Paris. Chiffres de hausse de la violence, des violences, plus 10,7% pour les atteintes à l'intégrité physique. Chiffre de la préfecture de police sur les 5 premiers mois de l'année 2019 par rapport aux 5 premiers mois de l'année 2018. C'est le Canard Enchaîné qui les donne ce matin. Là, il y a un chiffre sur lequel on peut se mettre d'accord, ou en tout cas qu'on peut commenter, avec notamment comme possible explication, comme en tout cas explication avancée par certains, ces manifestations de gilets jaunes quasi hebdomadaire à Paris, même hebdomadaire à Paris. C'était le cas aussi dans d'autres villes en France, mais à Paris, c'était chaque semaine. Est-ce que cette explication vous semble pertinente, Jérôme Fourquet?
Alors, il faut regarder de près, et puis il faut s'entendre sur le lien de causalité éventuel qu'on pourrait faire. C'est-à-dire, est-ce que c'est ces manifestations qui ont suscité des violences et qui ont fait tourner le compteur, ou autre explication, les forces de police très importantes qui ont été mobilisées chaque samedi à Paris, mais aussi dans beaucoup de villes de province, est-ce qu'elles n'ont pas été donc du coup détournées pour leur tâche première, qui est celle de lutter contre d'autres phénomènes? Le reste de la semaine, avec les phénomènes de récupération, on a entendu beaucoup les syndicats policiers, alors qui plaident pour leur paroisse, mais sur la question de l'épuisement des effectifs, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un espèce d'effet d'aubaine? C'est-à-dire que sur une délinquance de voie publique, il y a à un moment donné peut-être moins de forces de police présentes sur le terrain en semaine parce qu'ils sont consommés, comme on dit dans le jargon policier, et mobilisés le samedi pour essayer d'encadrer ces manifestations. Est-ce que ça peut pas jouer? On avait eu, mais je parle sous le contrôle des experts, en 2015, un phénomène un peu inverse, c'est-à-dire que après la déclaration, déclenchement de l'état d'urgence après les attentats du Bataclan et le déploiement de militaires en nombre relativement important, on avait eu de manière momentanée une petite baisse d'un certain nombre de faits délictueux sur la voie publique, mais les auteurs de la délinquance s'adaptent aussi, sont très réactifs, et donc ils ont pu ensuite modifier leur technique et leur comportement en fonction de cet appareil sécuritaire qui lui-même avait évolué.
Une hausse des violences à Paris, Laurent Mukiely, est-ce que vous faites un lien avec la crise des Gilets jaunes ce début d'année?
Ben, non, encore une fois, il faut quand on a des bons principes méthodologiques, quand on les énonce, ben après il faut les
appliquer.
Donc ben voilà, mais il faut les respecter. Hein. Donc il s'agit de ce qui est enregistré par la police et la gendarmerie. Il ne s'agit pas des résultats des enquêtes que nous faisons sur la population en général. Donc moi j'attendrai sagement la fin de l'année pour voir les résultats année après année et on verra bien s'il y a quelque chose qui a changé ou pas. Hein. Ça, c'est la première chose.
Mais vous comprenez ensuite, allez-y, terminez.
La deuxième chose ensuite, même si on voulait suivre cette hypothèse, on voit pas très bien le rapport qu'il y aurait entre la présence policière dans la rue et les atteintes à l'intégrité physique. C'est pas là-dessus que joue le plus. Il y a un effet dissuasif de la présence en uniforme sur la voie publique, c'est tout à fait certain, mais qui joue pas fondamentalement sur les atteintes aux personnes. Il joue beaucoup plus en réalité sur les atteintes aux biens, les vols, les cambriolages. Ça c'est très clair dans les études que je peux faire sur le terrain avec les équipes, c'est tout à fait clair, mais donc je vois pas trop, non, je vois pas le rapport, ça me paraît plaqué, vous voyez, un peu trop vite des explications générales sur des choses qui sont par ailleurs, qu'il faut prendre avec prudence.
Vous parliez d'atteinte aux biens, Laurent Mukiely, plus 16,4% pour ces atteintes aux biens, encore une fois selon les chiffres de la préfecture de police de Paris sur les 5 premiers mois de cette année. Christophe Soulez.
Oui, moi je partage effectivement ce qui a été dit par Laurent Mukiely. Je pense déjà et qu'il est trop tôt aujourd'hui pour se prononcer. Hein. On a toujours, je dirais là aussi, été dans le sens d'une analyse ou d'études avec un peu de recul. Hein, et on s'est toujours notamment battu pour que le ministère arrête de publier des chiffres en comparant un mois par rapport au même mois, parce qu'on sait que tous ces données-là peuvent être très largement influencées par des événements conjoncturels, encore une fois, par des pratiques d'enregistrement différentes. Donc je pense qu'il est important de regarder ça sur des tendances. Et là aussi, je pense effectivement que la présence policière, ou l'absence plutôt de policiers sur le terrain, peut avoir un impact qui resterait véritablement à mesurer et analyser, effectivement, sur un certain nombre d'infractions véritablement de voie publique. Je pense notamment aux vols sans violence, hein, ce qu'on appelle les vols à la tire, où là, effectivement, si vous avez moins de policiers dans le métro, dans les gares, sur les lieux touristiques, voilà, vous avez effectivement à ce moment-là un effet d'aubaine pour
certains types de
délinquance, pour les réseaux, etc., qui vont se dire, bon, bah là, voilà, on a en gros la place libre et on va commettre un certain nombre d'infractions. Encore une fois, voilà, c'est très difficile aujourd'hui de répondre fermement à cette hypothèse. Et comme l'a dit Jérôme Fourquet, effectivement, c'est aussi l'intérêt des syndicats de police, voilà, par contre, de le mettre en avant pour mettre en exergue, justement, la surutilisation des policiers et le fait qu'ils sont détournés de leur mission de lutte contre la délinquance.
Pour en revenir aux chiffres que je donnais et qui ne concernent encore une fois que Paris, que la capitale, est-ce qu'il y a un problème d'effectifs, de moyens, souvent souligné, Jérôme Fourquet le disait tout à l'heure, par les syndicats de policiers, Laurent Mukiely?
Qu'on revient à un problème de moyens.
Et est-ce que, en fait, cette hausse des violences et du nombre d'atteintes aux biens est liée à un manque d'effectifs ou un manque de moyens au sein de la police? C'est ce que disent aussi les syndicats de policiers. Est-ce que vous faites un lien entre cette hausse et la réalité quotidienne des policiers?
Deux réponses. La première, c'est un peu la même que celle qu'on vous a déjà faite, à savoir, oula, soyons très très prudents avec ces choses qui sont sur du très court terme, voilà. Hein, et puis par ailleurs, deuxième élément, ces choses sont sans doute effectivement pas dénuées d'arrière-pensée. Il y a en permanence au sein du ministère de l'Intérieur, plusieurs types de luttes d'ailleurs, il n'y a pas que les syndicats contre le ministre ou son cabinet, hein. Il y a plusieurs types de luttes où on passe son temps à instrumentaliser tel ou tel fait, tel ou tel chiffre, telle ou telle chose. Voilà. Ce qui est certain, c'est qu'il y a eu une mobilisation sans précédent des forces de l'ordre. On est allé chercher bien au-delà des unités qui font le maintien de l'ordre, les CRS, les gendarmes mobiles. On est allé chercher bien au-delà beaucoup d'autres policiers pour venir sur la voie publique face aux gilets jaunes, ce qui d'ailleurs a généré un surcroît de violence policière. Ça c'est bien certain. Alors en interne, ça pose tout un tas de problèmes sur les jours et les heures de récupération, les heures complémentaires, les fameuses qui sont jamais payées, qui s'accumulent par millions. Voilà, il y a tous ces enjeux-là qui sont derrière. Donc, deuxième raison pour être très prudent par rapport à ces déclarations de la préfecture de police de Paris.
Donc, quelques petits grésillements sur notre ligne, Laurent Muculé. On espère que tout ça tiendra jusqu'à la fin de l'émission. Désolé pour ce désagrément. Désolé pour nos auditeurs. On parlait de tout à l'heure de cette construction médiatico-politique autour de la sécurité, de cette problématique de la sécurité qu'on évoque depuis le début de l'émission. Venons-en, puisque c'est aussi la question de cette émission. Je voudrais vous donner quelques exemples récents. À Nice, en mai, Éric Ciotti, candidat putatif à la mairie, rival du maire actuel Christian Estrosi, disait qu'il y avait un climat d'insécurité à Nice, s'appuyant sur un chiffre, en tout cas c'est lui qui le donne, 5 agressions en 2 semaines dans la ville. Même idée à Lyon, où là c'est Philippe Meunier qui sera le monsieur sécurité du candidat Les Républicains aux prochaines municipales. Étienne Blanc, il disait le mois dernier, j'ai constaté une détérioration catastrophique de la sécurité, sans donner plus de précision. Il y a aussi Bordeaux, Nantes, où les habitants, les élus ont pu être confrontés à certains actes de violence, et puis des villes où des responsables politiques se sont donc emparés de ces quelques agressions pour porter le sujet de la délinquance et de la sécurité dans le débat public. Quand on est chercheur, quand on est rigoureux comme vous, Laurent Muculé, Christophe Soulez et Jérôme Fourquet, comment on fait pour essayer de, combattre, est-ce que c'est le bon mot, en tout cas de déconstruire ce discours, Christophe Soulez?
On essaie de faire un travail pédagogique qui marche pas très très bien, à vrai dire. En tout cas avec les responsables politiques, c'est ce qu'on a essayé de faire.
Encore une fois que le matériau est assez complexe.
Oui, c'est complexe depuis une quinzaine d'années. Qui est lié à 3 problèmes. Le premier problème, c'est qu'effectivement, on l'a vu aujourd'hui, c'est un phénomène complexe et non, on n'est pas dans une société de la complexité, mais au contraire dans une société où on veut simplifier le plus de choses possible parce que il faut pouvoir faire passer des discours très rapidement, notamment sur les chaînes d'info continues, etc. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, on a des responsables politiques très souvent sur ces questions-là qui vont, pour des raisons diverses, effectivement, instrumentaliser à un moment donné cette question de la sécurité. Et le troisième point, c'est que nous, tout ce qu'on a encore une fois, voilà, tout ce qu'on peut se dire en trois quarts d'heure, eux, ils peuvent pas le dire déjà. Ils peuvent pas le dire parce qu'il faut déjà le comprendre. C'est pas nécessairement toujours facile de leur faire comprendre les choses. Et en plus, ils ont pas les moyens après de le faire comprendre. Donc, on a là-dessus et bon, ce que vous avez cité. Et puis, on est aussi dans une logique. Hein, et nous, on s'est un peu toujours un peu battu là-dessus, même si on intervient dans ce débat-là, mais on est dans une logique souvent où ces phénomènes-là sont souvent vus sous l'angle du fait divers, donc de la réaction à l'événement, et là encore, voilà, avec cette idée qu'aujourd'hui, cet événement en plus, il s'affiche beaucoup plus, alors que c'est des phénomènes qui sont complexes et qui demanderaient justement d'être moins instrumentalisés et d'être analysés avec un peu plus de recul.
En tout cas, la sécurité, c'est un thème qui est de plus en plus abordé, donc je vous le disais il y a quelques minutes, premier exemple, Édouard Philippe. C'était il y a 3 semaines, c'était lors de sa déclaration de politique générale et c'était lors du lancement de ce qu'il a appelé l'acte 2 du quinquennat.
L'acte 2, c'est aussi répondre à un certain nombre de peurs. Tout repose sur un sentiment de perte de contrôle. Perte de contrôle sur les évolutions du monde, sur les progrès technologiques, sur des menaces réelles ou ressenties, sur la violence. Il existe plusieurs manières d'appréhender ces inquiétudes ou ces peurs. On peut les attiser pour en tirer profit, on peut les nier pour éviter de se poser des questions difficiles. Je crois surtout qu'il faut les affronter, en montrant à nos concitoyens que sur tous les sujets, la République a les moyens de garder le contrôle. Garder le contrôle, c'est d'abord garantir l'ordre public, pour tous et sur tout le territoire. Durant les 12 prochains mois, notre priorité sera de combattre le trafic de stupéfiants qui gangrène des pans entiers de notre territoire. J'ai également demandé à Christophe Castaner un plan pour lutter contre la violence gratuite. Les Français n'en peuvent plus des coups de couteau donnés pour un mauvais regard, de batailles rangées entre bandes rivales. Nous ne devons plus rien laisser passer.
Ne plus rien laisser passer, passage applaudi par les députés de la majorité. Le Premier ministre a également annoncé la rédaction d'un livre blanc sur la sécurité intérieure et une future loi de programmation, sans donner plus de détails. Il parle, vous l'avez entendu, de violence gratuite. On l'entend souvent, cette expression, Laurent Mukeli. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça existe, la violence gratuite?
Ben non, hein, évidemment, ça n'existe pas, sauf cas rarissime. La violence gratuite, c'est quelqu'un qui regarde quelque chose et qui ne sait pas les raisons de ce qui se passe. Alors du coup, il appelle ça la violence gratuite. En réalité, c'est quelque chose qui renvoie à l'ignorance de celui qui en parle, hein, l'expression. Voilà. Il peut bien sûr y avoir des comportements qu'on peut juger disproportionnés par rapport à telle ou telle chose, mais on n'y est pas, on ne connaît pas l'histoire, et tant qu'on l'a pas étudié, on ferait mieux de ne rien dire en réalité. Donc c'est largement une sottise. Il y a suffisamment de vrais problèmes lourds de fond pour pas en rajouter encore des faux. Après ça, ce qui est très clair dans ce qu'on vient d'entendre, c'est une séquence politique typique, c'est-à-dire c'est un gouvernement qui n'a pas spécialement un projet, un président qui n'a pas spécialement placé des questions de sécurité au centre de son projet, de son argument et de l'image qu'il veut donner, mais qui vient de subir une crise extrêmement profonde dans lesquelles non seulement son autorité, mais même son existence a été vraiment mis à mal. Il est à la recherche, évidemment, se refaire une image, se refaire une légitimité, se refaire une impression de force, etc., pour repartir dans ces différentes conquêtes politiques. Donc c'est pas surprenant du tout. Et au passage, on va évoquer des choses qui bien sûr existent, mais qui existent depuis très longtemps, parce que les trafics de drogue qui gangrènent les quartiers, pour reprendre l'expression,
ça fait longtemps.
Ça date maintenant d'une quarantaine d'années, quoi. Oui. On pourrait d'ailleurs s'interroger. C'est ça, la bonne question serait plutôt comment se fait-il que depuis 40 ans le discours politique s'est saisi de cette réalité, multiplie les discours, les lois et les annonces, et que par ailleurs, le problème persiste dramatiquement dans la réalité. Ce serait ça, en fait, la bonne question.
C'est une bonne question, effectivement. À l'aune de ce que vient de dire Laurent Mukeli, Jérôme Fourquet, est-ce que vous pensez que la sécurité sera, ou peut-être, l'un des thèmes principaux de la prochaine campagne des élections municipales?
Alors, il est encore un peu tôt pour le dire, comme on a essayé de l'expliquer en introduction. Il y a bien évidemment le jeu des acteurs.
Elle a déjà commencé, on le voit avec certaines déclarations, la sécurité est déjà là. Hein.
Mais il faut voir si d'autres sujets concurrents peuvent émerger d'ici là. C'est-à-dire que, est-ce qu'on a une reprise de feu, si vous me permettez l'expression, sur le front des Gilets jaunes, par exemple, hein, ou sous une autre forme? Eh bien là, bien évidemment, l'enjeu des municipales n'est pas du tout le même. Donc là, il faut être prudent aussi là-dessus, sur savoir si ça va être... Maintenant, si on regarde un petit peu de manière... clinique les choses. Ce qu'on constate aussi, c'est qu'on a un ministre de l'Intérieur, Monsieur Castaner, qui a été beaucoup critiqué sur sa personne et on lui a beaucoup fait un procès en illégitimité ou en incompétence. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, ce qui m'a frappé dans les propos du Premier ministre, c'est que l'expression est revenue à plusieurs fois dans sa bouche, qui était celle de reprendre le contrôle. Puisque on a aujourd'hui en France une crise du politique, il y a un certain nombre de grands défis qui n'arrivent pas à être réglé, et on se dit que sur la question de la sécurité, normalement, là-dessus, on peut avoir des résultats et ça peut se voir. Et donc, la combinaison des deux fait que le Premier ministre a intérêt à se positionner là-dessus. Il est dans le sillage de l'attitude assez martiale qui a été la sienne pendant la crise des Gilets jaunes, hein, c'est-à-dire qu'on a dégainé la loi anti-casseurs, on a envoyé des blindés de la gendarmerie dans la rue, et on a voulu, quelque part, montrer que on était en capacité de tenir et de maîtriser les choses. Et puis, c'était aussi pour essayer de couper court au procès en incompétence du ministre de l'Intérieur.
Il ne reste 15 secondes, Christophe Soulez. Est-ce que vous pensez que la sécurité peut être un thème de municipal?
Oui, c'est difficile de vous répondre non, vu le contenu de l'expérience qu'on a des différentes élections. Donc oui, bien entendu, ça peut être un thème. Après, effectivement, il ne faut pas non plus qu'il y ait un autre événement effectivement qui vienne dissimuler, je dirais, ce thème.
Merci à tous les trois. Christophe Soulez, directeur de l'Observatoire national de la délinquance, Jérôme Fourquet, directeur du département opinion de l'IFOP, Laurent Mukeli, sociologue, directeur de recherche au CNRS avec nous par téléphone. Merci également à l'équipe du Grain à Moudre d'été, Marguerite Caton, Elodie Piel, Margot Leridon, Roxane Poulain et Valentin Berg. Réalisation Thomas Jost. Pour réécouter cette émission, deux possibilités, le site franceculture.fr, l'application Radio France. Demain, nous parlerons de dessins de presse, dessins satiriques. La presse peut-elle encore être satirique ?